Le podcast à retrouver donc sur les sites de Radio Canu, vous savez, hein, ou encore sur catchthebeat.net. Mais... du coup, le Rough and Tough, on le retrouve ce soir, on vous l'a dit, on le répète une fois encore, hein, du côté des valseuses, hein, sur les pentes de la... sur la rue Chappet, ouais. On passe le touchung peng. Et puis on passe les vinyles aussi. On se retrouve là-bas, massive, passif. On se retrouve sur ces mêmes ondes de Radio Canu.
On est des pros, on n'avait pas allumé les micros.
Donc on le refait. On va vous parler de la manif donc, qui a eu lieu hier à Lyon.
Et puis du coup, après, on vous parlera de la grève des professionnels de l'urgence sociale face à la fin de la trêve hivernale.
Enfin, on vous parlera des lycéens contre les portiques de sécurité dans les lycées.
Puis on reviendra sur l'affaire Rémi Fraisse.
Et ensuite, un reportage sur le site Nébuleuse, Nébuleuse qui faisait une soirée à l'atelier des canulars au début du mois de mars.
Et enfin, notre chronique internationale, aujourd'hui on ira au Brésil et on vous parlera des manifestations contre la corruption. Et du coup, tout de suite, notre super reportage sur la manif d'hier contre la loi de travail.
C'était à nouveau manif un peu partout en France. À Lyon, celle-ci, comme celle des semaines précédentes, est partie de la place Bellecour pour rejoindre Jean Massé, puis la place Guichard par le boulevard Jean Jaurès. Parcours, une nouvelle fois, encadré par un énorme dispositif policier. La manifestation rassemblait moins de monde que les précédentes, sans doute près de 2000 personnes, les lycéens faisant notamment défaut dans le cortège cette semaine. Côté flic, la police était principalement mobilisée pour filtrer les flux de voyageurs à la gare de la Part-Dieu, puisque Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a monté d'un degré encore les mesures sécuritaires après les attentats de Bruxelles. Régime donc de maxi état d'urgence, on avait convoqué la gendarmerie mobile et la BAC pour encadrer la manifestation, et encore une fois, les flics s'en sont donnés à cœur joie pour faire étalage de leur monopole de la violence. À Paris, vous l'avez sans doute vu circuler dans les médias, on a enregistré de nombreuses bavures, dont cette violente manchette d'un flic sur un lycéen qui jetait de la farine. À Lyon, alors que la place Guichard accueillait l'AG en fin de manif et que les forces de l'ordre en présence ne permettaient pas vraiment de tous partir en manif sauvage, un bataillon de gendarmes et de baqueux ont chargé gratuitement des manifestants qui se tenaient à côté de l'AG, les ont molestés et certains ont été relâchés. Témoignage de l'un d'entre eux.
Alors en gros, ça faisait un moment qu'on était assis devant, il n'y avait pas beaucoup de signes de violence, je crois, même pas du tout.
Donc place Guichard ?
Place Guichard, ouais, c'est ça, donc dans un des coins de la place. Et à un moment, ils ont reçu l'ordre de charger, donc tout le monde s'est mis à courir. Donc moi, pareil, je comprenais pas trop ce qui se passait, donc j'ai couru. Et là, je me suis fait prendre en sandwich par 3-4 CRS. Et puis voilà, je me suis mis à terre avec toute la violence qui va avec, c'est-à-dire c'était pas juste me neutraliser, c'était aussi m'apprendre la vie, on va dire. Et du coup après ils m'ont emmené à l'arrière, je leur ai montré que j'avais aucun signe de résistance.
Ils m'ont tiré, ils m'ont ramené parmi les
parmi eux, ouais, ils m'ont mis derrière eux, donc j'étais parmi les CRS. Et donc ils me tiraient par le pull, ils m'étranglaient tout ça, enfin donc j'aurais dit c'est bon, tu me fais mal, je vais rien faire quoi. Et du coup, au bout d'un moment, ils comprenaient pas ce que je foutais là. Ils m'ont fouillé, ils voyaient que j'avais rien fait. Ils se sont demandé entre eux qu'est-ce que je foutais là, pourquoi ils m'avaient arrêté. Il n'y avait personne qui savait, donc ils m'ont laissé repartir.
D'accord. Voilà. Ils t'ont arrêté, ils savaient pas pourquoi.
Non, ils savaient pourquoi. Ils ont chargé, donc ils voulaient récupérer des gens au hasard et c'est tombé sur moi. Et au final, ils ont vu que j'avais rien fait. Ils savaient même pas eux pourquoi ils avaient chopé des gens. C'est juste, choper en 2-3 et voilà.
D'accord. Ils en ont chopé quelques-uns.
T'as vu des... Je sais pas. Je crois qu'il y en a d'autres qui se sont fait choper. Il y en a qui se sont fait embarquer. Moi, ils m'ont juste dit de repartir. Quoi.
T'as d'autres copains qui ont pris des coups ou...
Ouais. J'ai un pote qui a pris un coup. Mais après, lui, il est plutôt chaud, on va dire. Mais voilà, tu vois, on est aussi là pour s'assurer les uns les autres, faire en sorte que nos potes aussi, ils fassent pas trop de violence, les protéger, parce qu'on sait qu'en face, ils hésitent pas à faire usage. Quand tu vois qu'il y a des gamins de 13 ans qui se font matraquer, bah voilà, c'est. Tu sais qu'ils ont aucune limite. Et du coup, on essaye de prendre ça en compte et de faire attention et d'agir de manière réfléchie, quoi. Mais eux, ils réfléchissent pas et ils foncent juste dans le tas. Et puis, enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve vivante, quoi. Moi, je me suis fait choper, même eux ne savaient pas pourquoi. Et ça, je pense que ça veut dire beaucoup, quoi.
Tu peux décrire, s'il te plaît, pour Radio Canu, ce qu'on voit là ?
Juste là, qui double par la droite, un. Hein. Je sais pas, une trentaine, quarantaine de Robocop, à gauche pareil et devant pareil. Et il y a aussi en plus de ça toutes les autres croisements de rue qui sont bloqués par le même dispositif, quoi. dispositif. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et ils sont tous avec des casques là.
Ils ont tous convergé d'un seul coup, c'est ça qui est aussi impressionnant. Quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ils nous accompagnent à moitié un peu, ils ont un pas un peu plus rapide. C'est en train de chauffer. Hein.
Il y a eu la loi Macron, la loi sur le renseignement, l'état d'urgence et sa constitutionnalisation, ou encore la déchéance de nationalité.
Il y a aussi eu ce communiqué de Manuel Valls se vantant d'expulser plus de personnes sans papier que le faisait Sarkozy. L'expulsion de la jungle de Calais, les expéditions guerrières sur plusieurs continents, ou encore le meurtre d'un manifestant à Sivens et la répression de ceux qui se sont opposés à la COP21.
Il y a maintenant la menace de reprise des expulsions sur la ZAD et la loi El Khomri qui pousse des dizaines de milliers de personnes à la révolte.
Toute personne un minimum attentive constate que la lutte en cours dépasse déjà l'opposition à la seule loi El Khomri.
On ne fait pas d'omelette sans casser des banques, écrivent avec esprit les lycéens sur les vitrines fracassées des agences bancaires.
Ce qui s'exprime dans les slogans, dans les cortèges, dans les tags, dans les occupations, dans les affrontements avec la police, a trait à la situation générale du pays.
Ce qui s'exprime là est un ras-le-bol diffus, une rage commune, une révolte transgénérationnelle. Jamais dans notre vie nous n'avions vécu sous un gouvernement aussi discrédité, aussi cynique, aussi inapte à faire face aux défis du présent.
Jamais l'idée qu'une alternance politique puisse changer quoi que ce soit à notre sort n'a semblé aussi absurde. Jamais la perspective d'une élection présidentielle n'a paru aussi saugrenue, grotesque et pour tout dire révoltante.
Jamais la lutte entre les prétendants à la victoire électorale n'a offert un spectacle plus ridicule. La loi El Khomri est peut-être un prétexte, le prétexte qui nous manquait.
Pour aller dans la rue, occuper des bâtiments publics, nous rencontrer et nous décider.
On sait tous que si on ne le fait pas maintenant, si on manque d'audace et de courage, le retour à la normale sera encore plus brutal. La vie de merde et les élections 2017 de merde.
Nous cherchons moins à produire un mouvement de la jeunesse qu'à penser à la jeunesse du mouvement. C'est-à-dire lui donner la possibilité de ne pas être ce que les mouvements précédents ont été.
Lui permettre d'être imprévisible, nous donner la possibilité de ne pas répéter ce que la génération précédente a fait. Visons le soulèvement de 7 à 77 ans.
Voilà, c'était des textes écrits par des étudiants de Rennes, de Paris et d'ailleurs qui étaient panachés. Voilà, voilà pour ce qu'on a pu voir et entendre dans les manifs hier. Et des manifs, il y en avait d'autres. Les professionnels de l'urgence sociale étaient en grève hier à Lyon et on y était aussi avec notre micro. On vous laisse écouter ça tout de suite.
Aucun visage ne me regarde. Et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie du magasin, après l'office, le côté face aussi me donne le profil.
Le 24 mars, c'est une centaine de personnes qui se retrouvent place de la République à Lyon, à l'appel de PUCE, le collectif des professionnels de l'urgence sociale. On y retrouve des travailleuses et des travailleurs du service social et des structures d'hébergement d'urgence, mais aussi des personnes accueillies dans ces mêmes structures, ainsi que des militants pour le droit au logement. L'ambiance est à la fête, avec un goûter à partager ensemble.
Les fantômes et ne pas voir ses yeux qui ne me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas votre sac que j'en veux.
Alors nous on est le collectif des professionnels de l'urgence sociale et du coup on se mobilise aujourd'hui pour interpeller le préfet pour demander des places d'hébergement supplémentaires. En fait on lui a écrit une lettre il y a un mois qui est restée sans réponse, donc on s'est mis en grève aujourd'hui pour pouvoir obtenir une rencontre avec lui. Ce qu'on dénonce, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement sur le Rhône actuellement, qu'il y a 1500 personnes qui appellent le 115 sans se voir proposer de solution d'hébergement, et qu'il y a 1000 personnes qui sont rentrées sur le plan froid, et on ne sait pas si elles vont pouvoir s'y maintenir de façon pérenne.
Parce que du coup, concrètement, là, le 31 mars, c'est la fin du plan froid, et donc toutes les personnes hébergées dans le cadre du plan froid vont se retrouver à la rue.
Alors, a priori, il devrait y avoir une prolongation pour 2 mois. C'est ce qui est dans les tuyaux en ce moment. Nous, ce qu'on demande, c'est que les places elles deviennent pérennes et que les gens puissent se maintenir le temps qu'ils trouvent une solution à leur situation. C'est ce que dit la loi, en fait. Et la création de nouvelles places d'hébergement, parce qu'il faut savoir que le droit à l'hébergement, c'est un droit, donc ça ne se revendique pas, mais ça s'applique. Et que toute personne en situation sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à un hébergement d'urgence à tout moment, ce qui n'est pas du tout le cas dans le Rhône aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est des enfants qui dorment dehors, c'est des personnes âgées qui dorment dehors, handicapées, etc. Et qu'il y a une priorisation des places d'hébergement pour les personnes les plus vulnérables, et ce qui n'est pas l'application de la loi, quoi.
Ça pas un euro, allez, fouillez votre cœur, il y a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays.
La commission urgence à la maison de la veille sociale, elle sert à trier, en fait, les personnes les plus vulnérables. Du coup, celles qui vont pouvoir avoir accès à l'hébergement. Et du coup, donc, si on n'est pas une femme enceinte, un homme malade, ou on n'a pas accès à l'hébergement. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas de critères de vulnérabilité, autant dire qu'ils passeront l'hiver et les prochaines années dehors, quoi.
Et au niveau du plan France, c'est des places qui sont adaptées d'hébergement, ou c'est des choses qui sont complètement pas adaptées ?
Non, alors on milite aussi pour justement un hébergement adapté. Au niveau du plan froid, il y a beaucoup d'hébergements à l'hôtel, donc il n'y a pas d'accompagnement social. C'est des hôtels aussi qui sont loin de la ville, du coup, des difficultés pour scolariser les enfants. Après, il y a plein de places d'hébergement, donc en hébergement collectif, ou non adaptées aux personnes handicapées. Il manque de places d'hébergement aussi pour accueillir des personnes qui ont des chiens, par exemple.
Et les suites de la mobilisation, ça va être quoi ?
Bah, du coup, on va resolliciter le préfet pour avoir un rendez-vous avec lui, et puis on va tenter de se remobiliser à nouveau, parce que du coup, on ne veut quand même pas lâcher sur l'application du droit.
Et du coup, PUS, c'est quoi ?
C'est le collectif des professionnels de l'urgence sociale. Donc, c'est des professionnels qui se retrouvent en dehors de leurs heures de travail pour justement parler de leurs pratiques et se mobiliser sur ces questions, en fait.
Par manque de chance, la vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de
trace. On continue à appeler le 115 parce que le 115, il permet de comptabiliser déjà le nombre de personnes qui sont sans solution d'hébergement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le 115, il n'a pas de place, en fait. Donc, du coup, il n'y a que des solutions pour une nuit s'il y a une solution. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'utilité du 115, quand on devait être hébergé, elle est toute relative. Après, je pense qu'il faut continuer à appeler le 115 pour continuer à être comptabilisé. Au moins pour ça, les statistiques continuent à être comptabilisées, quoi.
Envoyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors, c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai.
On vient d'apprendre que le plan foie est très prolongé sur avril et mai. Ce qui n'est pas du tout suffisant, parce que c'est que reculer pour mieux sauter. Et que nous, on demande une pérennisation de ces places. Et puis surtout, on demande une ouverture de places supplémentaires. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore 1500 appels quotidiens au 115, qui correspond aux gens qui sont à la rue. Sans compter ceux qui, pour des raisons de barrière de langue ou d'usure, à force d'avoir appelé sans solution, n'appellent pas.
Il y a certaines personnes qui disent qu'il vaut mieux pas appeler le 115 parce que ça surchargerait le 115 et du coup ça empêcherait d'avoir une réponse adaptée à chaque personne.
Alors, il y a deux côtés pour répondre à ça. Il y a qu'effectivement, ne pas appeler le 115, c'est quand même mettre en péril sa demande parce que chaque fois qu'on appelle le 115, c'est noté. Et du coup, ça active la demande des personnes qui sont à la rue. Ne pas l'appeler, c'est faire comme si on n'était plus en demande d'hébergement. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Par contre, au jour d'aujourd'hui, le 115 comptabilise un appel hebdomadaire comme un appel quotidien, de façon à ce que tout le monde puisse accéder au téléphone.
Sur ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes plutôt content ou vous avez l'impression que...
Alors, sur le rassemblement, plutôt satisfait, parce que les familles et les personnes qui sont dehors se sont fortement mobilisées, les travailleurs sociaux aussi. J'espère qu'au niveau de l'opinion publique, ça aura touché un peu des gens. La pétition a été déjà pas mal signée, on va la mettre en ligne derrière, on n'a encore pas le site. Peut-être que cette pétition aidera justement à faire passer l'info à des gens qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe sur une ville comme Lyon.
Et en on est un petit peu dans une période du coup de mouvement social contre la loi travail. C'était une volonté de ne pas s'y associer, juste vous lier.
C'était un peu différencié effectivement. Puis je pense que pour les usagers, c'est pas facile de se retrouver au milieu d'un autre mouvement. Je pense que c'était important qu'on défende leurs droits en particulier, parce qu'en fait, je crois que nous, après, comme salariés, on s'associe à d'autres choses. Là, je crois que c'était important de faire quelque chose pour eux. C'est quelque chose quand même qui est de l'ordre de la reconnaissance. Et puis, dans nos pratiques, nous, on est quand même obligé de modifier énormément de choses au jour d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de réponse en termes de place pérenne. On est quand même dans un travail au quotidien où notre boulot, maintenant, c'est aussi d'aider les gens à tenir le coup. En leur disant qu'il n'y aura pas forcément une solution.
Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se boycottent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas,
même les vainqueurs ont droit au respect. Solidarité avec les vainqueurs.
Ceux qui me trouvent le matin, je l'ai évoqué. Ma présence ne choque même plus. Le temps défile doucement, je deviens une simple habitude.
On ne me voit plus, je suis transparent. Une habitude, les regards glissent. Sur mes affaires en
si vous souhaitez rejoindre le collectif Plus, il suffit d'envoyer un mail à collectifplus@razer.net.
Une ombre sans utilité, comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête.
Et voilà, du coup, on se rend bien compte qu'en ce moment, on est dans un climat de grosse mobilisation qui dépasse largement le cadre de la loi travail, mais qui touche un peu plusieurs sphères de la société. Et du coup, maintenant, on va aller du côté des lycées. Parce que si les lycéens se mobilisent contre cette loi travail et du coup pour leur avenir, ils se mobilisent aussi pour leurs conditions de vie et, de vie au quotidien, notamment à l'intérieur de leur bahut. Et ils sont remontés contre le flicage, qui du coup n'est pas qu'en manifestation, mais aussi à l'intérieur même des établissements. Et notamment, on vous a déjà parlé il y a une quinzaine de jours d'une des mesures phares du président d'Auvergne-Rhône-Alpes d'installer des portiques de sécurité et d'autres dispositifs de surveillance à l'intérieur des lycées de la région. Alors ça peut aller de la badgeuse à l'entrée, de passage sous un détecteur de métaux et évidemment de présence partout de caméras de surveillance. Donc en gros, Wauquiez, ce qu'il voulait faire, c'était transformer les lycées en tôle. Et mi-janvier, la première décision du nouveau président de la région a été d'installer des portiques de sécurité à l'entrée de 15 lycées. Alors le but, c'est maintenant de généraliser cette disposition. On ne sait pas encore dans quel lycée ça va être mis en place, mais c'est censé être mis en place dans les mois qui viennent. Il y a le lycée Pierre Béguin de Moirans en Isère qui s'est déjà mobilisé contre la mise en place de ces portiques, mais plus largement de plusieurs dispositifs de surveillance au sein des établissements. D'autres lycées commencent à se mobiliser aussi. Et alors, ce qui est assez intéressant là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des mobilisations et de parents d'élèves, et de profs, et d'administratifs, et de lycéens. Donc c'est un peu trans-personne qui utilise l'établissement. Et pas qu'un seul type de personne. À Chambéry, par exemple, les élèves de Louis Armand, où il s'agirait aussi là finalement d'installer à court terme des tourniquets de sécurité à badge et des caméras au sein de l'établissement, ont mis une énorme banderole sur leur lycée en marquant « pas de portique dans mon lycée » devant l'entrée et ont manifesté hier matin contre l'installation de ces portiques. On peut aussi aller du côté de Clermont-Ferrand ou du coup au lycée Lafayette. Les lycéens ont manifesté mardi contre la loi travail mais aussi contre les portiques de détection avec une banderole « un lycée, pas une prison ». Le 10 mars, 200 élèves avaient déjà bloqué le lycée pour protester contre ces portiques. On se rend compte que c'est une vraie mobilisation qu'il y a autour de désécurisation des établissements, mais en tout cas renforcement très très fort de la surveillance et du contrôle au sein des lycées. Et c'était pour souligner toujours que la mobilisation, là, elle dépasse le cadre d'une simple loi, mais que ça permet aussi aux gens de donner cet espace ou cette faille pour réagir sur des multiples évolutions de la société, que ce soit dans les domaines sociaux, dans les domaines de la surveillance ou plus largement politiquement. Alors, après ce petit tour vers les lycéens, on va revenir sur la mort de Rémi Fraisse, dont on a largement parlé en 2014. Et tout ça aussi pour rappeler que mobilisation s'associe bien souvent, très malheureusement, à répression, et répression de plus en plus brutale, comme on s'en rend compte avec les multiples...
Et plus en plus légitimée par la loi, avec notamment bientôt la constitutionnalisation de l'état d'urgence.
Tout à fait, et aussi de plus en plus, c'est association police-justice et du coup non-reconnaissance de violence complètement disproportionnée et hors de sens de la part des représentants de leur public et notamment de la part des CRS. Et alors là, qu'est-ce qui se passe avec du coup la mort de Rémi Fraisse ? C'est qu'il y a eu l'audition de plusieurs nouveaux témoins qui du coup montrent que Rémi Fraisse aurait eu les mains en l'air quand il a été tué par la grenade d'un gendarme, ce qui remet en cause toute la manière dont a été jugé la mort de Rémi Fraisse, notamment de nouveaux témoins interrogés récemment par les juges d'instruction, décrivent l'attitude pacifique que Rémi Fraisse a eue lors des affrontements de Sivens et mettent en cause le comportement des gendarmes mobiles la nuit où le jeune homme a été tué. Alors ça, du coup, on va vous faire un petit résumé d'un article qu'on a trouvé aujourd'hui sur Mediapart sur le sujet. Les juges d'instruction Anissa Oumo Hand et Elodie Billot du tribunal de grande instance de Toulouse ont recueilli récemment les dépositions importantes de plusieurs témoins directs des derniers instants de Rémi Fraisse. Donc, je rappelle, tué par une grenade offensive lancée par un gendarme mobile dans la nuit du 21 au 26 octobre 2014 sur le site du barrage de Sivens. À ce moment-là, il y avait une grosse mobilisation un peu dans la mouvance des ZAD qui se construisent aujourd'hui partout en France. C'est grâce à un appel de témoins lancé par les parents de Rémi Fraisse et à la ténacité de leurs avocats. Et même ça, c'est déjà fou à remarquer, c'est qu'il faut lutter pour faire entendre la vérité, ces protagonistes ont pu être retrouvés et du coup que leur parole a pu être entendue. La plupart d'entre eux n'avaient pas été interrogés par les gendarmes de la section des recherches de Toulouse, chargés de l'enquête, mais ont accepté de parler à des juges indépendants. Les dépositions sont très précieuses pour éclairer les circonstances exactes du décès de Rémi Fraisse et elles diffèrent sur plusieurs points de celles des gendarmes mobiles qui étaient sur le site de Sivens. Par exemple, l'un des témoins, Marc, interrogé, a expliqué avoir été atteint par un tir de flashball et avoir été secouru par Rémi Fraisse quelques instants avant que celui-ci soit tué. Étant allé voir la zone d'affrontement par curiosité en tant qu'observateur, ce militant dit avoir entendu des sommations des gendarmes mobiles, puis avoir vu un groupe de gendarmes à pied progresser en dehors de ce qu'ils appelaient la zone de vie et avoir été atteint d'un tir de flashball dans le thorax alors qu'il allait partir. Cette fameuse zone de vie où les gendarmes mobiles étaient retranchés est en fait une base construite par une entreprise de BTP pour entreposer engins de chantier, matériel et vestiaires. Protégée par deux clôtures successives hautes de 2 mètres et un fossé profond de 2,50 mètres, elle n'était constituée que d'un préfabriqué et un groupe électrogène. Peu de temps après cette scène, plusieurs autres témoins ont vu Rémi Fraisse bras levé près du grillage de la zone de vie et certains l'ont entendu dire « arrêtez, arrêtez » aux gendarmes mobiles. C'est le cas par exemple de Zachary qui a lui aussi été interrogé. Il faut savoir que d'après le décompte officiel, le nombre d'engins tirés par les militaires cette nuit-là est impressionnant puisque c'est plus de 700 grenades en tout genre, à savoir 312 grenades lacrymogènes, 261 grenades, d'autres types de grenades lacrymogènes, 78 grenades explosives assourdissantes, 10 grenades lacrymogènes instantanées, 42 grenades offensives, ainsi que 74 balles en caoutchouc, donc ça veut dire les flashballs. Les grenades offensives les plus dangereuses sont lancées à la main, à 10 ou 15 mètres maximum. Elles seront interdites après la mort de Rémi Fraisse. Selon les dépositions des gendarmes mobiles qui ont insisté sur la violence des assaillants, c'est le tir en cloche d'une grenade offensive lancée à la main depuis la zone de vie par-dessus le grillage qui a atteint, toujours selon les gendarmes, accidentellement Rémi Fraisse. Pourtant, on ne comprend toujours pas pourquoi les gendarmes mobiles avaient reçu l'ordre de tenir cette zone de vie cette nuit-là et pourquoi est-ce qu'ils avaient reçu l'ordre d'être aussi violents vis-à-vis des assaillants. Il faut savoir que le gouvernement surveillait à la loupe les événements de Sivens. Selon le compte-rendu d'intervention du lieutenant-colonel qui dirigeait du coup le groupement technique gendarmerie à Sivens, il est fait état vers 17h30, dès les premiers incidents, d'un entretien téléphonique du GGD 81, alors ça c'est le groupement de gendarmerie du Tarn, avec le DGGN, donc le directeur général de la gendarmerie nationale. C'est très technique, mais moi je trouve ça intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment de l'autre côté, qui est-ce qui donne des ordres, pourquoi, comment. Et du coup là il s'appelle dès 17h30 pour donner l'ordre de procéder à des interpellations. Donc on voit aussi que la manière dont la répression se met en place n'est pas du tout en lien direct avec ce qui se passe sur un territoire, mais vraiment aussi des volontés politiques beaucoup plus fortes derrière et de calcul. Donc preuve que la situation intéressait au plus haut point les autorités. Le lieutenant-colonel qui commandait le dispositif ce soir-là avait reçu l'ordre de tenir la position. Entendu comme témoin, il déclare notamment « Je tiens à préciser que le préfet du Tarn, par l'intermédiaire du commandant de groupement, nous avait demandé de faire preuve d'une extrême fermeté vis-à-vis des opposants par rapport à toute forme de violence envers les forces de l'ordre. » Et par contre, quand on écoute Bernard Cazeneuve un peu plus tard, lui, pour le coup, il fait un récit diamétralement opposé. Et du coup, le 14 novembre, donc on peut dire 15 jours après la mort de Rémi Fraisse, il va dire à l'Assemblée nationale « Est-ce qu'il y a eu des consignes de ma part pour qu'il y ait de la fermeté dans un contexte où il y avait de la tension ?» J'ai donné des instructions contraires et je le redis devant la représentation nationale, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Donc on voit que là même le témoignage des lieutenants-colonels contredisent les interventions du ministre de l'Intérieur sur l'usage de la répression. Finalement, du coup, quels ordres précis le préfet aurait-il reçu du ministère de l'Intérieur ? Quelles instructions ce préfet a-t-il transmises à son directeur de cabinet ? L'audition du préfet du Tarn et l'examen de ses échanges avec les gendarmes et l'exécutif demandés par les avocats de la famille de Rémi Fraisse ont été refusés par les juges d'instruction puis par le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Donc c'est toujours des éléments qu'on n'a pas le droit, en tout cas que la justice aujourd'hui n'arrive pas à mobiliser dans l'enquête. Il faut savoir que du coup le gendarme mobile qui a lancé la grenade a lui aussi été bien sûr interrogé. Finalement, il est placé maintenant sous statut de témoin assisté pour des faits requalifiés en homicide involontaire et son avocat estime que son client est tiré d'affaire et que l'instruction sera achevée d'ici 6 mois. On peut relever le cynisme de présenter les faits de cette manière-là. Les défenseurs de la famille du coup de Rémi Fraisse espèrent pour leur part que les deux magistrats chargés du dossier vont remonter la chaîne des responsabilités qui a abouti à la mort des affrontements à la mort de Rémi. On est évidemment du coup tout cœur derrière la famille et toutes les personnes qui se mobilisent pour essayer de détricoter comment est-ce que fonctionne la justice aujourd'hui. Parce que bien évidemment, au-delà de la mort tragique de Rémi Fraisse, c'est tout comment se met en place aujourd'hui le système de répression en France qui serait intéressant de rendre plus transparent pour pouvoir aussi l'attaquer de cette manière-là.
Et là, il y a du monde qui se mobilise et c'est heureux qu'il y ait du monde qui se mobilise. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a d'autres affaires où la police tue et on entend beaucoup, beaucoup moins parler. Voilà. Ce qui ne doit pas nous faire peur et on peut continuer à se mobiliser. Quand même. Voilà pour la partie mobilisation-répression. Et tout de suite, un petit reportage qui a été fait début mars à l'atelier des canulars.
Alors, voyons, nébuleuse. Nébule, Néandertal, néanmoins, néant, néarc, nébo, Nebraska, nébuleuse. Obscurcie par les nuages, comme un ciel nébuleux. Astro, objet céleste qui, contrairement aux étoiles et aux planètes nettement délimitées, présente un aspect diffus et vaporeux. Ok. Alors, je vois pas bien le rapport à quoi que peut-être, en tout cas, nébuleuse.info, c'est un site qui a un an et qui a pour vocation de rassembler les alternatives, réflexions et luttes autour du travail social et de la santé. Et nébuleuse.info et son collectif, eh bien, le 5 mars 2016, ils organisaient à l'atelier des canulars une petite fête pour fêter leur un an et inviter les copains, camarades et autres travailleurs sociaux qui étaient là pour présenter eux aussi leurs projets plus ou moins avancés.
Alors c'est bien simple, on va d'abord présenter le collectif Nébuleuse, nos questionnements, notre évolution depuis un an. Et ensuite il y a plusieurs collectifs qui sont là, a priori, qui vont se présenter un petit peu. Et l'idée c'est un peu de faire du lien entre les différents collectifs. Et pourquoi ? Parce qu'on s'ouvre à la publication. Le but c'est que ça devienne de plus en plus participatif. Voilà, sur internet. Sur Nébuleuse.info.
Pourquoi t'es là ce soir, par exemple ?
Parce qu'il y avait à manger.
C'était bon ?
Comment ?
C'était bon ?
Bah, pour l'instant, c'était plutôt pas mal, ouais.
Ouais. C'est relevé.
C'est bon ?
Mais c'est pas mauvais. Il y a de l'hummus, du céleri, salade, riz.
Et
tambouille, c'est relevé.
C'est relevé, ouais.
Mais c'est pas mauvais.
Chouette, si on prend un peu, je crois. Oui. C'est pas mal.
Non, là,
quand
on voulait faire un petit point aussi, et puis ouvrir la discussion là-dessus, s'il y a des gens qui voulaient interagir avec nous là autour, mais pas forcément sur ce moment-là, mais après, plus tard dans la soirée, ou par mail, ou peu importe. C'est en fait parce que la soirée de présentation l'année dernière, le site était tout neuf encore, donc on avait des idées comme ça, on était un peu parti de comment on pensait organiser le site, notamment les catégories qu'on voulait faire. Et en fait là, au bout d'un an, bah en fait on s'est rendu compte qu'on se confrontait à pas mal de problèmes. Enfin, on a, comme disait Jérémy, en fait, on a passé un an à chercher un peu tout le type d'articles qui existaient déjà sur Internet et qui pouvaient nous intéresser, qu'on avait envie de faire apparaître sur le site. Et on s'est pas mal posé de questions sur comment en fait on classait tout ça, on organisait tout ça. Donc on était au départ parti avec tout un tas de catégories, mais qui nous allaient pas forcément sous la forme parce qu'elles reprenaient pas mal les catégories qui sont déjà à l'œuvre dans le secteur social, qui classent les gens par type de problématique, par type de pathologie, ou enfin voilà, de ce genre de choses. Donc en fait, on a passé pas mal de temps à se questionner sur nos catégories. D'ailleurs, il y a un texte sur le site qui s'appelle...
De
l'usage des catégories, voilà. Qui explique un peu en fait c'est quoi la problématique autour de faire des catégories, même pour un site internet. Et en fait, c'est obligé de classer d'une certaine manière, de toute façon, les articles qu'on met, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi de classer et quel discours en fait ça porte aussi de faire des catégories, de classer, voilà, comme ça. Donc en fait, on est bien conscient que nos catégories, elles sont que le reflet de comment ça a été plus simple pour nous de classer sur le site, mais qu'elles ne valent pas grand-chose en dehors de ça, et qu'on est tout le temps en questionnement sur aussi comment on peut repenser cette question-là. Et il y avait un autre grand questionnement aussi qu'on avait, c'était sur en fait, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire apparaître comme discours, comme article sur le site. Qu'est-ce qui vaut, en fait, qu'est-ce qui est à nos yeux légitime d'apparaître ou pas. Et il y avait un truc qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de dire que c'est pas du tout que des projets qui seraient complètement hyper novateurs ou hyper... Enfin, que ce serait pas du tout que des initiatives qui seraient complètement en dehors des champs ou des institutions classiques ou ce genre de choses, et qu'au sein de chaque institution, il pouvait y avoir des trucs, des projets qui étaient menés, qui étaient chouettes, même si l'institution, elle était à chier, enfin, qu'elle était vraiment... pourrie en tant que telle dans par qui elle a été financée, ou voilà, quel autre projet elle pouvait faire par ailleurs, et qu'on voulait pas être dans non plus quelque chose de binaire comme ça, en disant voilà, il y a les institutions complètement pourries et puis il y a des choses alternatives chouettes, et que il y avait des, enfin, que nous ça nous paraissait plus intéressant de voir aussi, de montrer qu'il y avait des marges de manœuvre possibles dans des institutions, et qu'il y avait des personnes concernées ou des professionnels ou quoi qui arrivaient à faire des projets intéressants aussi. Et aussi quelque chose donc qui s'est posé là encore plus récemment, mais qui est tout le temps aussi en questionnement pour nous, c'est de dire qu'en fait il y a tout un tas de sujets aussi sur lesquels on prétend pas du tout avoir la vérité, ou être certain aussi nous d'avoir toutes les réponses, et d'avoir tranché en fait sur qu'est-ce qui était bien ou mal. En fait, on voulait pas être dans cette question là mais nous-mêmes, au sein du collectif, on n'a pas du tout une seule vision de est-ce qu'on est pour ou contre les attirances sexuelles, par exemple.
Après, pour continuer un peu, du coup, sur l'évolution du site, c'est que nous, au début, on voulait qu'il y ait plein de gens qui participent. Et aussi, maintenant, il y a une nouvelle interface où on peut publier vraiment des articles pour que ce soit plus collaboratif, et que ce soit vraiment... Enfin, le but, c'est que ce soit vraiment... plein de gens différents qui participent, et différents collectifs. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire, en parallèle du site, des rencontres où il y a plusieurs collectifs qui peuvent se rencontrer, là, à Lyon, mais aussi dans d'autres villes ou à l'international.
Soyons fous. Ouais, c'est ça aussi l'idée, que ce soit collaboratif, c'est que nous, on va vachement lire les trucs qui nous intéressent et rechercher ces trucs-là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des catégories qui sont peu remplies. L'idée, c'est que chacun puisse apporter les trucs chouettes qu'il lit ou qu'il écrit, quoi.
Non, oui, du coup, nous, on fait une permanence de soutien juridique aux sans-papiers. Par contre, on n'est pas travailleurs social, nous. On est même très peu travailleurs, mais... Et du coup, on est, je pense, à peu près 8 personnes. Et on fait ce truc-là, on accueille les sans-papiers qui ont des problèmes juridiques. Même si juridiquement, on n'est pas au top du top. Mais sur l'accueil, par contre, c'est hyper bien. Parce que nous, du coup, parce que si on a fait ça, c'est parce que nous, on a pendant longtemps, on a galéré avec des amis sans pape, et on a vu que ce qui leur a été proposé pour les aider, c'était quand même pas pas vraiment bien, notamment au niveau de comment ils étaient considérés. Dans plein d'assos qui font du soutien juridique aux sans-papiers, justement, ils sont hyper légalistes et quand même des fois pas mal, enfin je veux pas critiquer les autres, mais des fois pas mal paternalistes avec cette bonne vieille mentalité française, là, un peu néocolonialiste. Du coup, nous, on s'était dit qu'il fallait surtout pas, pour nous, ce qui est important, c'est surtout de pas être paternaliste. Et en fait, si on fait ce mouvement, c'est pas juste pour aider les gens qui sont dans la galère, même si des fois on arrive un petit peu à les aider quand même. Et puis vu que ça fait à peu près un an qu'on existe, petit à petit on devient meilleur. Et le but, c'est effectivement de fédérer des gens, créer du lien et après pouvoir faire des mouvements. Et du coup.
C'est à la Lutine.
C'est à la Lutine, juste à côté, tous les lundis de 18h30 à 20h.
Ça se passe très très bien parce qu'il y a beaucoup d'échanges et nous c'est vraiment la mise en lien qui compte vraiment entre à la fois les gens et les collectifs. Et ce qui est important c'est vraiment l'interculturalité, l'échange entre personnes,
les convergences,
les luttes effectivement et l'ouverture des possibles également et des brèches
La 8 rue Diderot sur les pentes de la Croix-Rousse, et c'est lundi 18h-20h. Là, c'est surtout cours de français, mais également, là, maintenant, c'est passé à apprendre l'anglais. Et il y a aussi un pote qui veut maintenant faire des cours d'arabe. Donc voilà, ça tourne un peu. Et c'est un peu varié, quoi. Ça peut être autant des personnes qui parlent pas du tout français que des personnes qui parlent français, mais qui ont besoin d'aide aussi pour des démarches ou pour un CV, lettre de motivation, etc. Et il y a des demandeurs d'asile, des sans-papes, tchadiens, algériens. Là, il y a 3 Afghans qui sont arrivés, qui ont leurs empreintes en Hongrie. Du coup, ils ont la procédure Dublin qui demande de transférer leur dossier. Et donc, ça commence par les cours de français, mais après, en fait, au bout d'une semaine sur l'autre, il y a le lien de confiance qui se met en place. Et après, ça parle d'autres sujets. Ça peut parler des papiers ou de la demande d'asile, mais aussi des problèmes de logement, de santé, etc. etc. Donc voilà, ça part sur les problèmes de démarches vis-à-vis de la langue, mais après ça peut parler de plein d'autres trucs et de voir après comment on peut aider au cas par cas avec ceux qui viennent. Donc c'est tous les lundis, il y a le tract qui est là, voilà. Et aussi le but c'est de faire aussi un infokiosque juridique comme ça peut exister ailleurs, pour que les personnes qui passent au-delà des cours de français ont des infos pratiques, des infos juridiques, des guides traduits en plusieurs langues. Et en même temps il y a une collecte de dons permanente à la Plume Noire qui permet aussi de récolter que ce soit des fringues, des sacs de couchage, des sacs, des chaussures, il y a plein de trucs aussi. Voilà.
Bonjour. Donc on vient ce soir avec Baptiste pour parler d'un projet de bagagerie sociale sur Lyon. On est tous les deux travailleurs sociaux dans le secteur de l'urgence. Ça fait quelques temps déjà, donc on a pu en tout cas repérer ce besoin. Donc voilà, une bagagerie sociale, en gros, dans l'esprit, c'est un lieu où les personnes sans domicile peuvent poser leurs affaires dans un lieu qui n'est pas forcément institutionalisé.
Du coup, on a mis en place une réunion publique mardi dernier. On était déjà une petite trentaine de personnes motivées à créer ce projet. Du coup, c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on est là ce soir pour faire passer un peu cette information-là que du coup l'objectif c'est vraiment d'ouvrir un lieu gratuit pour les personnes SDF pour qu'elles puissent vraiment poser leurs affaires, qu'elles soient plus mobiles sur Lyon ou ailleurs. Et du coup voilà, tout est à créer, tout est à penser, toute idée est bonne à prendre.
Pas envie de justement d'en faire une institution ce projet, donc c'est en ça qu'on est aussi vachement intéressé pour essayer d'en tchatcher sur des lieux militants, sur des lieux de vie autogérés, sur des choses simples qui relèvent tout simplement un peu de la relation de l'un à l'autre et de voir comment on peut se fédérer autour de ce truc-là.
Donc j'ai monté cette association avec un copain, un collègue, il y a plusieurs mois. C'est l'idée, en gros, c'était de monter un programme Un chez soi d'abord à Lyon. Donc le Un chez soi d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient toucher différentes choses dans le travail social et dans le travail médical. Dans le travail social, en gros, ça vient renverser l'idée du parcours résidentiel sécurisé. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est qu'en en France, la prise en charge, elle se fait d'une seule façon, c'est en parcours escalier. Et donc, les personnes SDF partent de l'urgence. Et puis, en fonction de leur parcours, elles partent en CHRS, en logement temporaire, en résidence sociale, pour aller jusqu'au logement social et enfin le logement classique. Cette ascension, il y a à peu près 6% des personnes qui arrivent à la mener jusqu'au bout. Elle est souvent coupée par la prison, la rue, l'hôpital, l'hôpital psy, le plan foi qui se termine et du coup on retourne à la rue. Enfin, souvent c'est coupé par des retours à la rue et ce qui est inhérent à la rue. Donc on n'a rien inventé, on n'invente rien du tout d'ailleurs, c'est ça. C'est le un chez soi d'abord, c'est le housing first. Ça a été initié aux États-Unis dans les années 90. Et en gros, c'est un docteur qui s'appelle Sam Semberis qui est new-yorkais et qui a dit au début des années 90, moi je prends les SDF avec des troubles psychiatriques liés au parcours de rue directement dans des logements, et il a placé l'accompagnement dans le logement. Mais c'était pas de l'accompagnement par le logement, c'était le logement qui était inhérent à l'accompagnement qui allait se mettre en place à l'intérieur. Et ça a marché, et ça fait 20 ans que ça marche bien. Ça s'est déployé aux États-Unis un peu partout, en Amérique du Nord, en Europe du Nord, un peu partout sauf en France. En France, ça s'est déployé autrement. C'est un médecin qui s'appelle le docteur Girard, qui est marseillais. Après un voyage aux États-Unis, il est rentré à Marseille. Il a décidé d'ouvrir un squat pour des patients SDF qui présentaient des troubles psychiatriques, plutôt état limite, schizophrénique. Et donc, il a ouvert un grand squat, et c'était la période des Don Quichotte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les tentes, voilà. Donc, c'est à ce moment-là que les SDF sont un peu rentrés dans les télés de tout le monde. Et ce squat a un petit peu interpellé le gouvernement. Donc, à l'époque, c'était Roselyne Bachelot, et elle a lancé une expérimentation qui se termine en avril, là. Et donc, ils ont testé le un chez soi d'abord en France. Mais c'était scientifique, expérimental et financé par l'État. Donc, les gens étaient tirés au sort et 100 étaient mis dans le dispositif un chez soi, et 100 dans le dispositif de la file active classique. Et là, ils sont en train de faire une comparaison. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va être déployé, on pense, un peu partout en France. Nous, en parallèle de ça, on a un historique institutionnel, travailleurs sociaux, donc dans les grosses associations lyonnaises. À un moment donné, ça nous a plus convenu de travailler dans ces conditions. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de mal aux gens et que du coup, ça me faisait beaucoup de mal. Ou alors peut-être que le fait que ça me fasse du mal, je faisais du mal aux gens. Enfin, j'en sais rien, mais c'était compliqué. Moi, je travaillais à Aralis sur les accueils d'urgence de Vénissieux. Donc, c'est des anciens foyers travailleurs migrants qui sont dans des états de délabrement extrême et où tous les types de populations sont présents. Donc, demandeurs d'asile, sans-papiers, SDF, femmes isolées, enfin, il y a un peu tout le monde. Il y a peu d'accompagnement, il y a peu de travailleurs sociaux et c'est assez compliqué. Donc, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis dit, peut-être qu'à Lyon, il y a moyen de faire un programme un chez soi d'abord, mais sur un versant non institutionnalisé.
Nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous. Dévouez-nous, dévouez-vous. Vouez-vous à nous. Vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous. Avouez-nous, avouez-vous. Nouez-vous à nous. Nouez-nous à vous.
Enfin, je sais pas si du coup vous êtes déjà un peu sensibilisé à cette approche ou non, mais on peut peut-être faire un petit historique. Si c'est pas très clair et si c'est trop long, n'hésitez pas à me couper. Mais en fait, donc, elle parle de Intervoice, donc c'est le réseau international des entendeurs de voix qui s'est mis en place dans pas mal de pays. Et c'est un mouvement qui est né en fait de la rencontre de Marius Rom, donc, qui est un psychiatre, et de Patty Hag, qui était sa patiente, qui était diagnostiquée de schizophrénie et qui en fait se reconnaissait pas dans ce diagnostic-là. Elle entendait des voix par ailleurs. Et elle a eu un long parcours psychiatrique qui ne l'a pas tellement aidée en fait, à vivre avec ses voix. Et elle a dit un jour à son psychiatre, bah, vous croyez en Dieu, vous pensez qu'il est réel, pourquoi moi mes voix ne sont pas réelles? Et donc à partir de ce moment-là, elle leur mis un peu en cause une conception traditionnelle de la psychiatrie, de parler par exemple de délire hallucinatoire et que les voix n'étaient pas spécialement réelles. Et donc ça a un peu ébranlé ce psychiatre. Et Patty Hag a demandé si... ce serait possible de rencontrer des gens qui auraient une expérience un peu similaire des phénomènes. Et donc, ils ont fait un appel à la radio. Et en fait, il y a 750 personnes qui ont répondu. Et donc, 450 personnes qui entendaient des voix. Et parmi elles, seulement 150 personnes qui étaient passées par la psychiatrie. Et du coup, ils se sont rendus compte de plusieurs choses assez... exceptionnel, un peu des révélations. C'est déjà que c'était une expérience commune. Aujourd'hui, on sait qu'entre 8 à 14% de la population ont des expériences de phénomènes. Et que puisque tout le monde n'était pas suivi par la psychiatrie, ou enfin, passait pas forcément par les structures de soins, c'était pas en soi un symptôme de maladie mentale. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des groupes. Des groupes qui se sont montés, des échanges, des groupes de parole entre père aidant, des personnes qui vivaient une expérience plus ou moins similaire, et notamment par exemple des gens qui racontaient qu'ils vivaient très bien avec les voix et les phénomènes, et même un peu comme ce qu'elle a pu dire, que ça leur était, que ça les aidait, quoi, que c'était des phénomènes qui étaient des liens pertinents avec leur vie. Et en continuant ces groupes et en étudiant un peu ce qui s'y passait, on s'est rendu compte que la différence n'était pas tant la manière dont les personnes entendaient ou vivaient les phénomènes, mais la relation qu'ils entretenaient avec ça. Est-ce que c'était une relation de confiance, de méfiance, d'ignorance, de déni, etc. Et que le fait d'en parler ouvertement, ça pouvait déjà réduire le sentiment d'être isolé. En fait, il y a plein de personnes qui vivent ces phénomènes-là. Et aussi... que les gens n'étaient pas forcément victimes de forces un peu incontrôlables, qui est souvent la signification accolée au diagnostic de schizophrénie ou de bipolaire ou de maladie mentale, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir des espaces d'échange pour pas partir d'un modèle unique, mais de se dire que peut-être que ces catégories-là, elles conviennent à certaines personnes, peut-être qu'elles conviennent pas à d'autres, et comment on pourrait chacun explorer nos perceptions subjectives, trouver un sens, apprécier, explorer en fait ces phénomènes, et à partir de là peut-être inventer d'autres mots, d'autres langages pour juste définir mieux ces expériences. Et...
tu mets du sel ?
Du sel ?
C'est du cookie dough, c'est un gâteau à la crème de marron. Il faut un pot de crème de marron, 3 œufs, genre 150 g de beurre, 150 g de sucre, de la farine si tu veux, ça change rien d'en mettre ou pas. Mais si t'en mets, c'est un peu plus farineux bien sûr. Et de la levure, c'est pareil, c'est si t'as envie que ce soit un peu fou. Un peu avec de la levure ou un peu sans levure.
Salagaboula, menchigaboula, bibidibob, bidibou. L'important, c'est la façon de le dire. Bibidibob, bidibou.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, On écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste.
Et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et donc là, on va aller au Brésil, où il y a eu pas mal de manifestations ces dernières semaines. Énormément de monde dans la rue, notamment le dimanche 13 mars, et ça dans plus de 400 villes du Brésil. Alors faut peut-être rappeler d'abord que Dilma Rousseff, donc la présidente du Brésil, qui appartient au Parti des Travailleurs, a débuté son deuxième mandat en 2014 et qu'elle est en ce moment très impopulaire, ces deux dernières années notamment. Ça, c'est le cas à droite où on lui reproche trop d'interventionnisme d'État, mais aussi à gauche où, parce qu'elle a causé un virage radical vers une politique de rigueur. Et puis elle a aussi été accusée en fait d'avoir maquillé les comptes de l'État pour favoriser sa réélection. Donc ça, c'est un peu le contexte général qui lui est vraiment pas favorable. Et là, ce qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est la nomination le mercredi 16 mars de l'ancien président Lula au poste de chef de la Casa Civile, donc ce qui équivaut plus ou moins à un rôle de Premier ministre. Et or, en fait, en ce moment, Lula, il subit des poursuites judiciaires à cause d'une affaire de corruption, notamment avec le groupe Petrobras, donc qui s'occupe du pétrole au Brésil. Donc le juge qui s'occupe de cette affaire, qui s'appelle Sergio Moro, a mis la présidente sur écoute et a transmis en fait aux médias un appel téléphonique sur lequel on entend Dilma Rousseff dire qu'elle ferait passer au plus vite à Lula son décret officiel au cas où il en aurait besoin. Ça ferait aussi que Lula échapperait au juge fédéral et serait seulement judiciable par la Cour pénale suprême. Donc en fait, à ce moment-là, la chaîne de télé la plus regardée du Brésil et pas mal de chaînes de radio qui sont à droite ont passé l'enregistrement en boucle vraiment tout le temps pendant plusieurs jours. Et ça a fait que la droite est descendue dans la rue, partout au Brésil, pour demander la destitution de Dilma Rousseff et l'emprisonnement de Lula. Là, dans les manifestations où il y avait énormément de monde, il y avait des slogans comme « Nous sommes tous des Moro », donc Moro, celui qui s'occupait de cette affaire. On parle de manifestations contre la corruption, mais ils reprennent en fait un super truc qu'ils avaient déjà fait donc en 2013 et en 2015. C'est en fait de créer un espèce de consensus en mode la corruption c'est mal, pour mettre Dilma Rousseff dehors et puis pour remettre la droite au pouvoir. Donc face à ces manifs assez crades, il y a pas mal de contre-manifestations qui ont été faites, mais avec quand même beaucoup moins de monde. Et là, dans le cortège des manifestants, en fait, ça se séparait entre des membres et des sympathisants du PT qui voulaient apporter un soutien inconditionnel à Dilma Rousseff, mais aussi tout un tas de personnes qui, même s'ils sont mécontents en fait de la politique d'austérité de Dilma Rousseff, se soulevaient juste contre un retour en force de la droite. Là, il y avait plutôt des banderoles avec écrit « Il n'y aura pas de coup d'État ». On lisait ça un peu partout, avec aussi des banderoles « Plus jamais de 1964 », donc pour faire écho à la date du coup d'État militaire qui avait eu lieu au Brésil et qui avait marqué le début de la dictature. Le juge du tribunal suprême fédéral a suspendu l'entrée de Lula au gouvernement. Et cette semaine, le processus de destitution de la présidente semble engagé. Il y a beaucoup de pouvoir, du coup, maintenant, qui revient au parti du mouvement démocratique brésilien, qui est la première force parlementaire au Brésil, et donc qui est un parti de centre, et qui s'est donné jusqu'à mardi prochain pour déclarer officiellement s'il reste ou non au gouvernement, ils retirent leur soutien au Parti des Travailleurs, ce qui pourrait laisser la place à Michel Temer, donc le numéro 1 du PMDB, et qui, du coup, lui, pourrait peut-être assumer le rôle de prendre le pouvoir jusqu'aux prochaines élections de 2018. Voilà, donc pour un petit point sur ce qui s'est passé ces dernières semaines au Brésil. Et puis, on va faire un petit retour à Lyon avec l'agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Agenda lyonnais du week-end et du début de semaine.
Et ouais, bien sûr, dès ce soir, le 25 mars, donc bien sûr vendredi soir, à 19h30, vous pouvez aller à l'Oblix. Ça a déjà commencé, dépêchez-vous d'aller à la cantine pour cantiner. Et ouais, si vous avez envie de manger un petit bout pour soutenir les prisonniers et les prisonnières, c'est à la Doua jusqu'à 23h.
C'est rue Albert Einstein.
Oui, tout à fait. Alors moi, du coup, je voulais vous parler d'un truc. C'est demain, c'est le collectif Intermet qui fait un atelier d'écriture qui s'appelle l'institution à la réalité. En gros résumé, c'est juste comment les institutions médico-sociales rendent les gens dépendantes à leurs propres institutions. Alors après, j'ai pas marqué l'adresse, c'est juste que c'est de 14h à 17h, mais vous pouvez retrouver l'info sur nébuleuse.info.
Et demain, vous pourrez aller à la Griffe où il y a une rencontre débat autour du livre Les Néo-Paysans. Ça se passe donc à la Griffe en présence des auteurs du livre, Lucie Leclerc et Gaspard Allens. Donc ce livre, c'est le résultat en fait d'une enquête d'une année sur celles et ceux qui fuient la ville pour s'installer dans le monde paysan et choisissent le maraîchage, l'élevage ou la culture en expérimentant une agriculture écologique et de nouveaux rapports aux ressources. C'est donc demain à la Griffe.
Et voilà, et si vous voulez fuir la ville pour aller dans une autre ville, sinon à Chambéry, bah, y a quoi ? Y a un concert contre les idées d'extrême droite et le racisme. Du coup, voilà, il y aura Petite Poule, Sissi Luciani, René Binamé, Le Toile et de la bouffe. Puis voilà, ça a l'air drôle.
Donc toi, tu trouves que Chambéry, c'est fuir la ville. Super. Mais on rappelle que, bien sûr, les lundis soirs, on peut à Plume Noire, au cours de langue et la collecte permanente de dons, la Plume Noire qui se trouve donc au 8 rue Diderot dans le 1er arrondissement, ou alors à la permanence juridique de soutien aux sans-papiers à la Lutine de 18h30 à 20h.
Et voilà, et sinon, si on a envie de rien faire, on peut rester dans son canapé, mettre le son 2.2, mais c'est déjà le cas, et écouter Noise Pollution, non ?
Ouais, ça peut être pas mal, ça, un petit coup de Noise Pollution.